enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Derek Prince est reconnu comme un des enseignants de la Bible les plus renommés de notre époque. Il est l'auteur de plus de 30 livres traduits dans près de 50 langues.
Bonjour et bienvenue dans notre série d'enseignements « Poser les fondations » apportée par Derek Prince. La résurrection de Jésus est la base de la doctrine chrétienne et représente également le modèle de notre propre résurrection. Cette seconde partie de cette étude sur la résurrection des morts nous fait découvrir ce que la Bible révèle sur l'expérience de Jésus lui-même.
Maintenant, regardons également dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 52 et 53. Il est dit, « En un instant, en un clin d'œil, la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Ce qui est corruptible, c'est ce qui est sujet à la déchéance, la mortalité, c'est ce qui est sujet à la mort. » Ainsi, si vous prenez ces deux passages ensemble, il y a 5 changements spécifiques qui ont lieu dans nos corps. Du corruptible à l'incorruptible, ce qui est sujet à la déchéance n'est plus sujet à la déchéance. Du mortel à l'immortel, ce qui est sujet à la mort n'est plus sujet à la mort. Du méprisable à la gloire, là où quiconque ayant été enterré devient une chose assez pitoyable, dans un sens, c'est ce que l'on devient quand on descend dans la fosse, quand nous ressuscitons dans la gloire. C'est dans la faiblesse que nous sommes semés, mais c'est dans la force que nous ressuscitons. Et il est semé, ainsi que nous l'avons dit, en corps de l'âme. Il ressuscite en corps spirituel. Je vais récapituler ces 5 changements à nouveau. Du corruptible à l'incorruptible, du mortel à l'immortel, du déshonneur à la gloire, de la faiblesse à la force, et de l'âme au spirituel. La résurrection de Jésus est un élément absolument fondamental de la doctrine chrétienne. Nous ne pouvons la mettre de côté et continuer de nous appeler chrétiens. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 14, Paul dit, « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. » Et au verset 17, « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés. » En d'autres termes, le pardon des péchés est indissolublement lié à la résurrection de Jésus. Si Jésus n'est pas ressuscité, l'Évangile est faux, notre foi est vaine, et nous sommes encore dans nos péchés. Voyez-vous, il y a d'éminents théologiens et d'autres personnes de ce type qui ont nié la résurrection du corps de Jésus. Ils sont encore dans leurs péchés. Ils ne sont pas sauvés. Vous ne pouvez pas être sauvé à moins de croire dans la résurrection physique de Jésus. Poursuivons maintenant sur l'attestation de la résurrection de Jésus. Quelles sont les preuves que la Bible nous donne de la résurrection de Jésus? Ce qui est intéressant, c'est que la première preuve qui nous est donnée n'est pas le témoignage oculaire. La première preuve est le témoignage des Écritures qui prévaut sur le témoignage humain. Lisons quelques passages tirés de l'Ancien Testament qui annoncent la résurrection de Jésus. C'est un sujet très, très intéressant et j'aimerais avoir plus de temps pour le traiter. Mais regardons un passage de 1 Pierre, chapitre 1, versets 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile. Ainsi, les prophètes de l'Ancien Testament avaient un vrai dilemme. Je me demande si vous pouvez comprendre cela, car c'est un dilemme incroyable. Pierre dit que l'Esprit de Christ était en eux, l'Esprit du Messie. Ainsi, sous l'inspiration, ils ont parlé à la première personne de choses qui arriveraient à Jésus et qui ne leur sont jamais arrivées. Et cela a dû être difficile. Je ne sais si vous vous êtes jamais mis dans la peau de ces vieux prophètes de l'Ancien Testament. Ils ont annoncé les choses les plus extraordinaires sur eux-mêmes qui ne leur sont jamais arrivées. Laissez-moi vous donner juste deux exemples. Dans le psaume 22, verset 16, c'est ce qu'on appelle un psaume messianique. En d'autres mots, une démonstration de la révélation du Messie. David parle à la première personne et il dit, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Cela n'est jamais arrivé à David. Comment pensez-vous qu'il se sentait quand il a dit ces paroles? Je n'en sais rien, mais c'était l'Esprit de Christ qui se manifestait en lui. Il parlait ainsi à la première personne de choses concernant le Messie et qui ne lui sont jamais arrivées. Nous pouvons lire aussi dans Ésaïe 50. Il y a quantité d'autres exemples. Je vous donne juste deux exemples très significatifs. Ésaïe chapitre 50, verset 6. « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Cela ne s'est jamais passé dans la vie d'Ésaïe. C'est arrivé au cours du ministère de Jésus, mais cela fut écrit à la première personne. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'était l'Esprit du Messie en eux, au travers du Saint-Esprit, qui prédisait ce qui arriverait au Messie, à Jésus, mais qui ne leur est jamais arrivé. Et il n'est donc pas étonnant qu'ils aient cherché de quelle époque ils étaient en train de parler. Je m'émerveille de la foi de ces hommes qui ont eu la foi de recevoir cela. Je remercie Dieu pour eux, car ce sont les premières confirmations de la résurrection de Christ qui sont annoncées dans les Écritures. Dans le psaume 16, qui est cité par l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte, nous trouvons une image étonnamment claire de la mort et de la résurrection de Jésus. Psaume 16, commençant au verset 8. « J'ai continuellement l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Cela aurait pu être vrai de David, mais c'était aussi vrai du Messie. Ce qui se passe en fin de compte, c'est qu'ils disent certaines choses qui sont vraies par rapport à leur expérience personnelle, puis ils pénètrent au-delà de leur expérience propre dans quelque chose qui n'aurait jamais réellement arrivé. Il poursuit. « Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. » Et si vous allez dans Actes chapitre 2, verset 26, vous découvrirez que ce qu'est la gloire. Pierre dit, « Ma langue est dans l'allégresse. » Comprenez-vous? Je vous l'expliquais auparavant. « Votre langue est votre gloire, car c'est le membre qui a été placé dans votre bouche pour vous rendre capable de glorifier Dieu. » Il dit donc, « Mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. » C'est-à-dire, même si je vais mourir et être enterré, j'aurai l'espérance de la résurrection. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le sépulcre. Ceci indique que son âme devait aller dans le Shéol. Et tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Son corps n'a jamais subi la corruption, bien qu'il soit resté un certain temps dans la tombe, car il n'avait jamais commis de péché, et le péché est l'aiguillon qui introduit la mort dans le corps. Il est dit alors dans le dernier verset, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. » Cela se réalisa quand Jésus fut ressuscité. Il retourna dans la présence du Père, et là, il y eut d'abondantes joies. Voilà, c'est un exemple. On en trouve un autre dans le psaume 71. Psaume 71, versets 20 et 21. C'est un psaume stupéfiant. Il ne nous est pas dit qui était l'auteur du psaume. Vous pouvez chercher dans les notes si vous voulez, mais il s'adresse à Dieu et il dit, « Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie, tu nous ramèneras la vie, tu nous feras remonter des abîmes de la terre. » Cela n'est jamais arrivé à aucun psalmiste. « Tu relèveras ma grandeur et me consoleras à tous les niveaux. » Cela ne s'applique qu'à Jésus. Il a été enseveli, il est revenu à la vie, il est ressuscité, et sa grandeur s'est accrue. Il est devenu le détenteur du nom qui est au-dessus de tout nom. Vous voyez, ça n'est jamais arrivé au psalmiste, c'est arrivé à Jésus. C'est l'Esprit du Messie en eux qui témoignait avant l'heure des choses qui allaient se produire. Quand vous commencez à appréhender cette vérité, c'est la preuve la plus puissante de la résurrection de Jésus qui soit. Et il y a encore un passage très intéressant. Paul dit, dans 1 Corinthiens, il dit que l'Évangile consiste en trois faits. Nous avons vu cela l'autre jour. Jésus est mort, selon les Écritures, il a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Ne vous êtes-vous jamais interrogé sur le fait de savoir ce que l'Écriture dit sur sa résurrection le troisième jour? Je n'ai pu en trouver qu'un seul passage, et c'est extrêmement intéressant, car cela dépasse de beaucoup le contexte. Dans Osée, chapitre 6, versets 1 et 2, « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours. Il nous ramènera la vie. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. » C'est une annonce très claire de la résurrection le troisième jour. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas fait mention de lui au singulier, mais de nous au pluriel. C'est une révélation. Si vous regardez dans Éphésiens 2, vous verrez comment Paul reprend cette révélation. Voyez-vous, la prophétie ne fait pas que prédire des événements futurs, mais elle les annonce d'une telle façon qu'elle les explicite en même temps. Elle les interprète en même temps qu'elle les prédit. Et en voici un exemple parfait. Éphésiens 2, en commençant au verset 4. Ceci est écrit de tout vrai croyant. Éphésiens 2, en commençant par le verset 4. « Mon Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses. » C'est merveilleux. Il nous a aimés, même quand nous étions morts. Combien de personnes peuvent aimer un cadavre? Qu'a-t-il fait? Trois choses. Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tout ceci est écrit au passé. Ainsi, à cause de notre identification avec Jésus, nous sommes rendus vivants. Nous sommes ressuscités. Et, on ne s'arrête pas là, nous sommes intronisés. C'est notre destinée. Et Paul ne l'écrit pas au futur. En essence, il dit que si vous pouvez le recevoir, vous partagez le trône avec Jésus dès maintenant. Mais c'est la réalisation de Osée dans chapitre 6, versets 1 et 2. Voyez comme l'Écriture interprète merveilleusement les choses par elle-même. Puis Paul donne une liste de témoins humains. Ce n'est pas insignifiant, mais c'est secondaire. Nous allons nous pencher là-dessus brièvement. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 5 et 8. Le verset 4 dit, « Et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Verset 5, « Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. La plupart d'entre eux sont encore vivants, ce qu'il a supposé qu'ils devaient être très jeunes quand ils l'ont vu. » Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. C'est la liste des témoins oculaires de la résurrection de Jésus. Selon la loi juive, le témoignage de deux hommes était suffisant pour avérer un fait aux yeux de la loi. Mais Dieu a donné bien plus que deux témoignages de la résurrection de Jésus. Maintenant, je voudrais aborder l'importance de la résurrection. Nous ne pouvons pas surestimer l'importance de la résurrection de Jésus. c'est le fait décisif de l'histoire de l'univers. Toute l'histoire de l'univers, pas seulement la race humaine, s'articule autour de la résurrection de Jésus. Tout d'abord, c'était la justification de Dieu sur Jésus. Souvenez-vous, deux cours de justice l'avaient condamné à mort. Une cour séculière romaine, une cour religieuse juive. Puis il a été enseveli. Il était sous cette condamnation. Mais quand il est ressuscité, Dieu a justifié son Fils. Ceci est exprimé dans Romains, chapitre 1, versets 3 à 4. Et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, est déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. C'est une expression juive pour dire le Saint-Esprit, car en hébreu le Saint-Esprit se dit l'Esprit de sainteté. Certains traducteurs ne réalisent pas que Paul écrivait en grec, mais pensait en hébreu. Déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par la résurrection d'entre les morts. La résurrection de Jésus est le fondement de notre justification. S'il n'était pas ressuscité, nous serions encore dans nos péchés. Paul dit dans Romains chapitre 4, versets 25 et 26, « Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. » S'il n'était pas ressuscité, nous n'aurions pu être justifiés. Nous serions encore dans nos péchés. Puis il dit, au sujet du salut, dans Romains, chapitre 10, versets 9 et 10, Romains 10, chapitre 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Voyez-vous, si vous ne croyez pas que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, vous ne pouvez pas être sauvé. C'est un point essentiel du salut. Malheureusement, il y a de très nombreux chrétiens de nom qui ne croient pas dans la résurrection physique. Aucun d'eux ne peut connaître la paix et la joie de savoir ses péchés pardonnés. Et peu importe la position qu'ils occupent dans l'Église. La résurrection est donc la garantie que Jésus a le pouvoir de nous sauver. Dans Hébreux, chapitre 7, verset 25, il est dit, « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Si Jésus était toujours dans la tombe, comment pourrait-il nous sauver ? Mais parce qu'il est à la droite de Dieu, parce qu'il a expié nos péchés, parce que toute autorité sur la terre et dans le ciel lui a été donnée, il est rendu capable de nous sauver parfaitement. J'aime beaucoup cette phrase. Quelqu'un a dit du plus bas au plus haut. Il n'existe aucune limite à la puissance de Jésus pour sauver. Il a tout pouvoir. Puis, et ceci est aussi très important, la résurrection est l'accomplissement de la rédemption. Écoutez bien, notre destination finale n'est pas le ciel. C'est merveilleux d'aller au ciel, mais ce n'est qu'une halte provisoire. Car pendant que notre esprit va au ciel, notre corps est encore en train de pourrir dans la tombe. Le salut n'est pas complet. Jésus est mort pour toutes les personnes. Son salut inclut l'esprit, l'âme et le corps. Et ce salut ne sera complet qu'avec la résurrection. Paul le disait clairement. Il dit dans Philippiens, chapitre 3, versets 10 et suivants, il dit que le but et l'objet de cette vie ici-bas, c'est afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Son souci n'était pas d'aller au ciel. Son ambition était de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Grâce à Dieu, quand nous mourrons, notre esprit ira au ciel. Mais ce n'est pas l'accomplissement de la rédemption, car notre corps n'a pas encore bénéficié de sa rédemption. Paul porte ses regards sur la résurrection, et il dit quelque chose de très puissant. Il dit, « Si je puis parvenir à la résurrection d'entre les morts. » Paul ne pensait pas que ressusciter était acquis. Chers frères et sœurs, vous ne pouvez pas vous laisser aller jusqu'à la résurrection. Si vous ne faites que vous laisser aller, vous finirez ailleurs. Cela demande une consécration et une détermination authentique et très sérieuse. Je suis désolé de dire que j'ai rencontré des milliers de chrétiens qui ne prennent pas ces choses suffisamment au sérieux. Si Paul disait, pour parvenir par tous les moyens à la résurrection, qui êtes-vous ou qui suis-je pour dire que nous y arriverons de toutes les façons? Sommes-nous au même niveau spirituel que Paul? Probablement pas. Mais même Paul ne considérait pas que c'était acquis d'avance. Il ajoute au verset suivant, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Paul était un homme résolu. Il disait, « Je ne suis pas arrivé, je n'ai pas atteint. » Au moment où il parlait. Mais il dit, « Il y a une chose à faire. Je cours vers le but. J'ai une ambition et une volonté suprême. Être là quand les morts en Christ ressusciteront. » Et quand vous imaginez à quoi cela ressemblera, frères et sœurs, ce serait une honte de le rater. Vraiment. Ce n'est pas possible pour nos esprits limités de concevoir la gloire et la puissance qui sera libérée quand ces corps faibles, corruptibles, seront brusquement et glorieusement transformés à la ressemblance du corps de Jésus. N'est-ce pas merveilleux? Pour moi, ça l'est. En fait, il me faut m'arrêter et réfléchir un moment là-dessus. Romains chapitre 8, verset 23 le dit également. En d'autres termes, le salut n'est achevé qu'avec la résurrection. Romains chapitre 8, verset 23. Il est dit, au verset 22, « La création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Puis il est dit, « Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Est-ce vrai pour vous? Vous avez les prémices des fruits de l'Esprit. Êtes-vous en train de gémir en vous-même? Êtes-vous dans une attente dévorante? De quel droit pensez-vous, ou même moi, que Dieu s'occupe de nous moins bien? Le baptême dans le Saint-Esprit ne nous est pas donné juste pour avoir du bon temps. Il nous est donné pour nous préparer à ce qui nous attend. Je sens une très grande solennité juste à ce moment précis. Ce que je voudrais dire encore au sujet de la résurrection, c'est que c'est la consommation de notre union avec Jésus. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17, dit ceci. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, avec les morts qui seront ressuscités, sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ceci est très intéressant, car il existe deux mots grecs pour désigner l'air. L'un décrit l'air raréfié des couches supérieures, l'autre l'air plus proche de la surface de la terre. Le mot utilisé ici est l'air inférieur. Nous n'irons donc pas très loin au-dessus de la terre pour rencontrer le Seigneur. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Après cela, plus de séparation. Nous serons pour toujours avec le Seigneur, et nous serons pour toujours les uns avec les autres. J'ai une épouse que j'aime profondément et qui m'a quitté la première. Mais un jour, nous serons réunis pour toujours. Chers frères et sœurs, ne ratez pas cela. C'est la pire des tragédies de votre vie si vous ratez cela. C'est urgent, c'est quelque chose de sérieux. Pour finir, il faut que je me dépêche, la résurrection se fera en trois phases. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Et voici dans quel ordre, en trois phases séparées. D'abord, Christ, les prémices, puis ceux qui sont à Christ lors de son avènement, et finalement, la fin, la résurrection finale de tous les morts qui resteront. Pour qui Jésus va-t-il revenir? Pour ceux qui appartiennent à Christ. Il ne revient pas, ce n'est pas un voleur. Il ne prendra rien ni personne qui ne lui appartient pas. Lui appartenez-vous? C'est une question importante. Ce sont ceux pour qui il revient. Il est appelé les prémices. Voici un dernier passage de la Bible qui est vraiment très exaltant. Je crois que c'est dans Lévitique 9. Lévitique chapitre 9. Je pense que c'est ça. C'est juste une cérémonie rapide, brève. Attendez que je trouve ça dans ma marge. Je vous demande encore un peu de patience. C'est une cérémonie sous la loi de Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, « Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. » Le sabbat est quel jour? Quel jour de la semaine? Samedi. Quel est le jour qui suit le sabbat? Dimanche. Quel jour a eu lieu la résurrection de Jésus? Dimanche, exact. Il était la gerbe, il a été secoué d'un côté et de l'autre en notre nom, afin de nous rendre acceptables à cause de lui. Il n'était pas juste une tige, il était une gerbe. Et si vous lisez Matthieu chapitre 27, quand Jésus mourut, il y eut un tremblement de terre. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs justes ressuscitèrent et entrèrent dans la ville. Je ne crois pas qu'ils se soient retournés dans la tombe. Je crois qu'ils sont montés avec Jésus. Ils sont devenus la gerbe qui a été secouée devant le Seigneur, annonçant qu'une grande multitude suivrait. Nous voici, nous sommes la gerbe, nous sommes les prémices.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.